France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande quelle est la place des stars et des célébrités dans la vie des Françaises et des Français. Une étude vient d'être réalisée par le cabinet Sociovision pour le compte du groupe Figaro. Une étude qui englobe toutes les générations, celle du baby-boom jusqu'à la génération Z, née entre 1995 et 2010. C'est l'occasion d'établir ce matin une différence entre les stars et les célébrités à l'âge des réseaux sociaux. Existe-t-il encore de vraies stars à notre époque? Taylor Swift, Timothée Chalamet, Zendaya, Lady Gaga, les stars du cinéma et de la chanson d'aujourd'hui font-elles autant rêver que les stars d'autrefois? Ava Gardner, Marilyn Monroe, Sean Connery ou Cary Grant? Le mot star est-il galvaudé? Quelle fonction jouent les célébrités auprès des Français? Des influenceurs comme Squeezie ont-ils supplanté des stars absolues comme Céline Dion dans le cœur des jeunes générations? Élément de réponse avec nos invités. Et vous dites-nous quelles sont les stars, les vedettes, les célébrités qui vous inspirent. Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Céline Dion.
Et la terre peut bien s'écrouler. Et m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet 2024. Et Céline Dion, selon une étude que nous allons décortiquer ce matin, eh bien c'est la star la plus connue des Françaises et des Français, connue de 99% de la population, toutes générations confondues. Bonjour Rémi Houdguiry.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur général du cabinet Sociovision, une filiale de l'IFOP. Bonjour Ilana Rudiakov. Vous êtes vice-présidente de Brain Value au sein du même groupe IFOP et vous êtes les co-auteurs de l'étude « Les célébrités à l'âge des réseaux sociaux ». Quelle place occupe-t-elle dans la vie des Français? Une étude commandée par le Figaro et Gala. Bonjour Christian Delporte, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, spécialiste d'histoire des médias et vous reviendrez tout à l'heure sur l'histoire de la presse people. Bonjour Marion Rouillet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Gala. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique Cinéma Télérama et chroniqueuse dans cette émission. Avec nous également Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, qu'on retrouvera tout à l'heure dans sa chronique Les Français Mode d'Emploi. Bonjour Jérémy.
Bonjour mon cher Ali.
Alors j'aimerais qu'on fasse une première distinction peut-être entre la star, la vedette et la célébrité. Qu'est-ce qu'une star? Edgar Morin nous dit dans son livre culte qui n'a pas vieilli, Les stars, que c'est une vedette d'essence supérieure, un acteur ou une actrice dont l'aura et le magnétisme saisissent le public le plus large. Guillemette Audicino.
Ah, c'est moi qui attaque.
Ben vous êtes la grande spécialiste du cinéma autour de cette table.
Non, ben oui, je suis tout à fait d'accord avec Edgar Morin. Ouais. En fait, il y a un truc qui est simple, enfin, je trouve, c'est que la star, donc, c'est une étoile, donc c'est inaccessible. Normalement, c'est, voilà, une star, en fait, c'est inaccessible. On est sidéré, on n'oserait pas lui adresser la parole comme ça, au coin d'une rue, on ne va pas lui dire « Hé, ma poule, je t'admire beaucoup ». Voilà, ça, c'est une star. Aujourd'hui, une célébrité, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un. On va dans un restaurant, s'approcher de lui, ou même lui taper dans le dos. Grâce ou à cause des réseaux sociaux, on a l'impression que c'est nos amis. Jusqu'à ce qu'ils nous demandent de l'argent, d'ailleurs, etc., etc. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment une question de proximité. C'est inatteignable ou c'est atteignable.
Guillemette Audicino, on peut être une immense comédienne, un immense acteur, sans posséder le pouvoir charismatique qu'évoquait Edgar Morin.
Oui, absolument. Et ça, c'est aussi... Alors là, moi, je parle pour le cinéma. C'est aussi vraiment une question de... Vous savez, on dit « la caméra l'aime ». Mais à un point, c'est-à-dire, il y a des gens qui, dès qu'ils apparaissent sur un écran... qu'ils apparaissent derrière une caméra, il se passe quelque chose de magique qui est très difficile à analyser. On parle de Catherine Deneuve, on parle d'Alain Delon, on parle de gens comme ça, on parle de Brando, on parle de... C'est une alchimie qui est mystérieuse et qui fait que justement, cette star, elle nous impressionne. On a l'impression qu'elle n'est pas exactement justement de la même essence que nous.
Rémi Houdguiri, Ilana Roudiakov.
Oui, alors nous, on est parti de ce principe que la star appartenait au monde d'avant et que la célébrité était véritablement la star d'aujourd'hui. Et l'étude le confirme, on a plus de la moitié des Français qui considèrent qu'il n'y a plus de vraie star aujourd'hui. Et d'ailleurs, plus on avance en âge et plus on considère qu'il n'y a plus de vraie star, les boomers considèrent que voilà, les Alain Delon, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, ça n'existe plus.
Et c'est vrai que cette notion de star correspond à une époque où tout le monde, ou presque, connaissait les vedettes de la chanson et du cinéma. Et c'est vrai que le grand siècle des stars, c'est peut-être le 20e siècle et l'avènement des médias de masse.
Oui, tout à fait. Je pense que l'étude confirme que clairement, les stars appartiennent au monde des masses médias. Et depuis un quart de siècle maintenant, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, la fragmentation des médias, leur multiplication, en réalité, il y a de plus en plus de gens célèbres, mais au sein d'une communauté, au sein d'une génération, il y a très peu de personnes célèbres qui fédèrent tout le monde, et c'est ça probablement une célébrité, avec une grande différence, c'est qu'à l'époque des stars, elles étaient relativement inaccessibles, même si on en parlait à la télévision, dans la presse, etc. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a un contact quasiment permanent si on suit les comptes d'une ou plusieurs célébrités, et donc on a une banalisation, et c'est ça le phénomène de la célébrité.
Et dans cette banalisation, ce qui est intéressant, c'est qu'une star, enfin, j'ai l'impression que, donc, il y a des années, donc j'ai l'impression d'être vieille là d'ailleurs en plus, mais donc, il y a des années, les stars, on n'avait pas l'impression qu'on pouvait en être une. Aujourd'hui, on peut être une célébrité. Et ceux qui regardent les célébrités se disent, un jour ce sera moi, c'est facile d'en être une. Alors que personne ne pensait que c'était facile d'être Catherine Deneuve, a raison d'ailleurs.
Ilana Roudiakov.
Mais justement, on pourrait ajouter une dimension qui est, les stars faisaient rêver et il y avait une dimension d'élévation. Et avec cet accès quotidien qu'on peut avoir grâce aux réseaux sociaux, aux stars et la banalisation, on perd cette élévation. Il y a un nivellement quelque part vers le bas. Et c'est plus compliqué de tirer vers le haut.
Pour une majorité de Français que vous avez interrogé dans cette étude, la notion de star ne correspond plus à l'époque actuelle. Pour 55%, et toute génération confondue, le mot star apparaît comme galvaudé.
Oui, tout à fait. Et c'est clair que, par exemple, les influenceurs, aujourd'hui, qui font partie des célébrités, et certains sont connus et suivis par énormément de personnes, ne sont pas considérés comme des stars, clairement. C'est encore un statut un peu ambivalent.
Il y a peut-être une exception qu'on peut citer, ce sont les influenceurs entrepreneurs qui créent un écosystème, une marque autour d'eux. Et c'est là où on va retrouver...
Comme Squeezie, par exemple.
Squeezie, Léna Situation, de Cannes aux Oscars, quelqu'un qui arrive à même franchir les frontières et gagner un statut international, là on commence à s'approcher de ce statut-là.
Votre regard, Marion Rouillet, je rappelle que vous êtes chef de rubrique Gotha chez Gala.
Bah, nous les stars, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a stars, célébrités, j'entendais parler de Léna Situation par exemple. On se dit que les stars ont un vrai talent, etc. Moi, je trouve que ces gens-là, comme Léna Situation, comme Squeezie, il y a un vrai travail derrière. Il y a une vraie présence médiatique. Nous, ce qu'on essaye de suivre, voilà, pour Gala, c'est toutes ces stars, hein, en devenir aussi les stars et les nouvelles stars, au plus près, en fait, offrir, voilà, ce qu'elles peuvent apporter tous les jours. Nous, on est tous les jours sur le terrain, et c'est ça qu'on essaye, voilà, d'apporter ce qu'elles véhiculent, la passion, l'influence qu'elles peuvent avoir sur les jeunes générations et tout ce travail-là qui peut être admiré et qu'on a envie de suivre.
Guy Méthodissino.
Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est marrant, alors qu'en fait, je pense que c'est ce mot-là qui a nivelé un peu tout, c'est people. Vous savez, on dit tout, ah, c'est un people. Ça veut dire c'est quelqu'un. Alors c'est quelqu'un. Mais entre c'est quelqu'un et c'est n'importe qui, on n'est pas. Vous voyez, c'est pas loin. Donc cette notion de people, je pense qu'elle a participé un peu à lisser toutes ces notions, en fait, et même à les descendre un peu.
Rémi Houdguiri.
Après, les Français ne sont pas dupes. C'est-à-dire, oui, quand on leur demande finalement qu'est-ce qui caractérise en propre une célébrité, c'est le talent de très loin qui ressort. Et c'est pas le fait qu'elle soit célèbre, c'est pas le fait de ses engagements ou je ne sais quoi. Il y a quand même, reste quand même dans notre société, l'idée qu'il faut être exceptionnel, avoir quelque chose d'exceptionnel, une compétence, un don, une activité, pour mériter...
Pour sortir du lot.
Et pour mériter l'admiration.
J'aimerais soumettre à votre sagacité cette citation de l'historien Georges Minois dans son Histoire de la célébrité, Les trompettes de la renommée, je le cite. « On ne rêve plus d'être célèbre pour pouvoir agir ou transmettre un message. On rêve d'être célèbre pour être vu, sans plus. Être vu pour mieux se voir soi-même. La célébrité est devenue pure recherche et affirmation de soi. » Qu'est-ce que vous en pensez, Guillemette Odissino ?
Bah oui, c'est assez vrai. C'est la notion d'être vu, d'être visible. Cette notion du miroir, en fait, la société devient une espèce de miroir géant dans lequel on se regarde et dans lequel on s'aime, on tente de s'aimer mieux. En fait, exister aux yeux des autres, c'est une façon de se guérir soi-même, souvent, voilà, de ses propres problèmes narcissiques. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la célébrité pour la célébrité. Mais ce qui est, j'allais dire, mignon, c'est que souvent, des people qui sont devenus célèbres juste en ayant réussi à se montrer, finissent par se dire que ça ne suffit pas. Et ils se mettent à développer des talents. Il y en a qui prennent des cours de théâtre alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Il y en a qui faisaient juste des petites vidéos, qui se mettent à se dire, bon, je veux faire du théâtre vivant. Enfin, donc en fait, le talent, ils essayent de l'avoir après la célébrité. Donc ça, c'est chouette.
Oui, les Français ne sont pas dupes à la fin des fins. C'est-à-dire qu'il y a deux types de célébrités aujourd'hui. Il y a celle qui dure très peu, celle qui vient de la télé-réalité, qui est une célébrité, qui n'incarne pas quelque chose, qui n'incarne pas des valeurs. Or, à la fin des fins, celle qui va durer dans le temps, c'est celle qui transmet quelque chose et qui inspire les Français. Donc je pense que aujourd'hui, même si on ne peut plus parler de stars comme autant des temps 30 glorieuses, il y a quand même, demeure l'idée qu'une célébrité, c'est quelqu'un qu'on va admirer.
C'est la star de la Fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier. Quel est le menu de votre chronique vers 11h20?
Une star d'antan, Joe Dassin, chantait une ode à l'Amérique. Vous savez, l'Amérique, je l'aurai. On va s'interroger sur le regard que les Français portent en ce moment sur les États-Unis d'Amérique depuis Trump 2. Comment l'image qu'ils ont des États-Unis a changé au cours des 10 dernières années? Comment elle a changé aussi au cours des 3 derniers mois? Le tableau est assez intéressant et on en parlera tout à l'heure.
Allez. Je peux plus, moi, à chaque fois que je suis sur Instagram, ça me déprime. Ouais, quand on voit la vie des autres.
Grand bien vous fasse.
Ivanka Trump, elle est aux Bahamas. Paris Hilton, elle est à Saint-Barth. Kim Kardashian, elle a son gros cul assis sur le premier rang d'un défilé de mode. Faut rien, elle. Hein. Nicole Richie, elle est chez le coiffeur. Bon, en fait, personne travaille à part moi, quoi.
Sur France Inter.
Quelle est la place des célébrités, des stars dans la vie des Français à l'âge des réseaux sociaux? C'est notre thème ce matin à l'occasion de la sortie d'une étude du cabinet Sociovision. Alors nous avons autour de la table deux journalistes, une journaliste à Télérama, Guillemette Odissino, et une journaliste à Gala, Marion Rouillet. Vous côtoyez des vedettes, des stars quasiment toute la journée. Pourquoi avoir choisi cet organe de presse? Tiens, Marion Rouillet, pourquoi travaillez-vous à Gala? Pourquoi aimez-vous les stars et les célébrités?
J'aime bien l'histoire que ça raconte derrière, que ça peut nous produire en nous. J'aime le terrain, hein, quand on est sur le terrain et qu'on a l'occasion pour Gala de couvrir un tas d'événements où on est justement au plus près de ces stars et de raconter leur histoire. Et puis voilà, véhiculer un peu pouvoir donner envie, véhiculer une part de rêve finalement. C'est quelque chose qui est accessible pour nous, pourquoi pas la rendre accessible aux autres.
Guillemette Odissino. C'est votre pain quotidien, les stars, enfin, les vedettes.
Rien non plus. Je passe pas mes journées sur les genoux de Céline Dion non plus. Mais non, je crois. Enfin, moi, de toute façon, tout ce qui a toujours guidé, enfin, mon envie de faire ce métier-là, c'était l'admiration. C'est-à-dire, j'aime admirer. J'aime admirer le talent. J'aime admirer la beauté aussi. C'est vrai que quand on se retrouve face, je sais pas moi, Anna Maria Bartolomei, par exemple, j'aime ce qui est beau. Ce qui me procure de l'émotion. Et c'est vrai que pour moi, des acteurs et des actrices, d'abord dans des films, et ensuite voir l'individu qui a été aussi talentueux pour pouvoir me procurer cette émotion-là, je trouve ça fou. C'est fou, enfin, c'est idiot, mais voyez, vous éprouvez une émotion devant un film, avec dans un rôle une policière, etc., puis tout d'un coup, vous vous retrouvez en face de l'actrice. Elle n'est pas policière, hein. Je trouve que cette magie de l'incarnation, ça me fait toujours le même effet.
Et l'une de vos stars préférées, eh bien, c'est... Aimée Tedesino, pourquoi Marilyn Monroe ne cesse de rester l'incarnation absolue de la star?
Oui, alors je voudrais dire, je pense que si les jeunes générations ne la citent plus, c'est parce qu'ils pensent que Marilyn Monroe, c'est un pouf. Un pouf, un mug, un coussin, vous voyez, c'est le problème aussi avec l'illustration, les stars deviennent des illustrations. Non, Marilyn, en fait, Marilyn, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est l'espèce de fusion absolue entre la gloire, le désespoir, entre le talent et la dépression, entre... C'est-à-dire, on sent très bien derrière tout ce glamour, derrière tout ce gloss, derrière tous ces diamants et toutes ces plumes, qu'il y a une petite fille qui a peur, une petite fille qui pleure, une femme qui a du mal à exister dans sa vie sentimentale. Donc cette espèce de mélange, il est nucléaire. Et ça marche encore pour les célébrités d'aujourd'hui. C'est ça qui nous fait... Céline Dion, quand elle fait son documentaire pour parler de sa maladie, tout d'un coup, elle devient incroyablement proche. Et on se dit, cette femme, cette espèce de génie de la chanson, finalement, c'est une femme fragile et tout. Ça fonctionne constamment. Ça rend l'étoile accessible.
Marion Rouillé.
Quand on parle de Marilyn Monroe, et ce qui fascine aussi, c'est le mystère qui l'entoure, oui. Je pense.
Christian Delporte, je rappelle que vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. La presse a contribué à populariser, à lancer des stars hein, comme Marilyn Monroe. La presse people, la presse à sensation est relativement ancienne. Hein. Le public français, notamment au 19e siècle, a toujours aimé hein, les échos glanés dans les antichambres des célébrités.
Oui, il y a d'abord une information people sans presse people. Mm-hmm. On peut citer le Gil Blas dans les années 1890 qui rapportait les échos mondains, les mille histoires croustillantes racontées sur les aristocrates, sur les grands bourgeois qui fréquentaient les lieux chics à Paris ou sur la Côte d'Azur. La presse s'intéressait de très près au jeu. À la fin du 19e, début du 20e, les grandes vedettes ne sont pas les vedettes de cinéma par définition, mais sont des vedettes de théâtre. Et il y a de multiples articles sur Sarah Bernhardt, par exemple. Mais je pense que c'est surtout à partir des années 30 que les choses ont changé avec le cinéma, avec le mythe hollywoodien, avec l'actualité des vedettes du grand écran et du musical, la multiplicité des magazines comme Ciné Miroir, Ciné Monde, Pour Vous, où s'affichaient Marlène Dietrich, John Crawford, Gary Cooper, Clark Gable, et des Français aussi comme Jean Gabin ou Daniel Darieux. Et puis c'est l'apparition de la grande presse populaire, type Paris Soir, qui s'intéresse de très près à tout cela. Mais l'émergence véritablement de d'une presse spécialisée, presse people, c'est dans les années 50. Fin des années 40, début des années 50, avec des magazines comme Noir et Blanc, Ici Paris, France Dimanche. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que Ici Paris ou France Dimanche, à l'origine, c'était des journaux généralistes. Et puis, ils ont compris que ce créneau people fonctionnait et ils se sont transformés. Il y a Point de Vue qui rachète Image du Monde, Point de Vue, Image du Monde, le magazine de la vie heureuse. Mais tout ça se fait, je dirais, avec une certaine manière, avec le consentement des vedettes que l'on affiche. Et un journal va essayer de contrarier ce chemin. Ça s'appelle Paris Jour. Paris Jour, c'est un tabloïd sur le modèle des Anglais. Et c'est un quotidien qui va utiliser des paparazzi. C'est la première fois dans l'histoire de la presse française. Et là, on est précisément dans la discrétion avec la multiplicité des procès. Et je pense que l'étape suivante, c'est la fin des années 90.
Peut-être, Christian Delporte, il faut quand même parler de Paris Match. Oui, Paris Match, avec ses photographies de vedettes, de stars payées à prix d'or, et c'est une spectaculaire.
Oui, d'ailleurs, c'est à partir des années 50... quand Paris Match voit que ça marche auprès du public, change d'orientation, de moins en moins de reportages et de plus en plus d'informations people sur les grandes ce monde.
Coup de tonnerre en 1987 avec le lancement de Voici du groupe Prisma.
Absolument. C'est intéressant d'ailleurs le cas de Voici parce qu'à l'origine, c'est pas du tout un magazine people, c'est un magazine féminin. Mais ça fonctionne pas bien. Ça plafonne à 200 000 exemplaires. Alors, le journal décide radicalement de changer d'orientation en devenant le journal des paparazzi qui va dévoiler la vie privée des célébrités. Et d'ailleurs, voici fait un pari, c'est que le fruit des ventes et les ressources publicitaires vont permettre de constituer un trésor de guerre qui va compenser les effets financiers des poursuites à répétition. Le magazine joue gros à ce moment-là, mais il gagne. Les procès s'accumulent. Rien qu'en 1997, année record, il y a 170 procès.
Et c'était sous l'impulsion du patron de l'époque, Axel Gans. Et puis, il y a eu la naissance, dans la foulée de Voici, de Closer, de Public et de Gala. Gala, aujourd'hui, qui a quitté le giron de Prisma Press pour intégrer le groupe Le Figaro.
Oui, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien les deux visages de la presse People, celle de l'indiscrétion et celle de l'information heureuse des courses européennes et des vedettes. Je veux dire qu'il y a dans Voici, sur les vedettes, une information non consentie, alors que dans Gala, ça n'est évidemment pas le cas.
Marion Rouillet de Gala.
Oui, on est vraiment sur Gala, sur la bienveillance, je tiens à le préciser quand même. Vraiment.
Comme dans Grand Bien vous fasse.
L'intimité, les célébrités au plus près, que ce soit dans l'hebdo, sur le site internet et sur les réseaux sociaux, tout en bienveillance.
Une écrasante... Oui, pardon, Guillemette Odissino.
Non, j'étais en train de me dire qu'en fait, avec l'énorme mode des journaux à scandale qui révèlent des secrets, etc., ça a poussé aussi, en fait, à ce que les stars se remettent juste en mode célébrité, c'est-à-dire descendent de leur piédestal, parce qu'en fait, elles se sont dit, bon, au lieu de me taper des paparazzis dans mon jardin, je vais moi-même communiquer sur ma vie. Donc, en fait, elles se sont un peu dévoilées pour qu'on arrête de les poursuivre, et je pense qu'elles ont enlevé du mystère aussi, mais en enlevant du mystère, on leur foutait la paix. Enfin, il y a une espèce de rapport comme ça aussi entre l'indiscrétion et la banalité, quoi.
Christian Delporte, la presse People française est nettement moins trash que la presse anglo-saxonne ou italienne.
Oui, mais ça vient peut-être de la manière dont on aborde l'information en France. Je veux dire qu'il y a une sorte de mélange dans la presse britannique. Alors la presse d'information générale a pratiquement disparu au profit de cette presse People quotidienne. En France, on a toujours rejeté ce modèle. Pour une grande partie des journalistes, la presse People, c'est pas du journalisme. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Mais aujourd'hui, peut-être que les choses sont moins claires. Je pense que le rôle de la télévision était important.
Quoi qu'il en soit, Rémi Houdguiri, Ilana Rudiakov, votre étude, les célébrités à l'âge des réseaux sociaux, montre très bien qu'une écrasante majorité des Françaises et des Français sont très intéressés par la vie des célébrités.
Oui, c'est
89%.
Ouais, 9 Français sur 10, il n'y a que 10% des Français qui sont réfractaires. Alors, il y en a qui sont passionnément intéressés, donc ils le sont plus modérément, bien évidemment. Et derrière ça, il y a aussi un phénomène d'admiration. C'est-à-dire que non seulement on s'y intéresse, mais aussi on les admire. Donc, il y a toujours cette idée qu'une célébrité, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose dans sa vie. Et je pense que le succès de la presse People, qui se confirme, qui est toujours là depuis des décennies, c'est aussi le reflet d'une société qui a envie de rêver et qui rêve par l'intermédiaire des célébrités.
Et au-delà de les faire rêver, il y a aussi une notion de pouvoir justement rentrer dans leur vie, dans leur quotidien. Donc c'est toujours un jonglage et un équilibre juste à trouver pour la célébrité, qui n'est pas facile. On pense à Pierre Niney qui nous montre son âne chez lui, jusqu'où on va. Mais ça interpelle, ça intéresse, on a envie d'être avec lui, avec son âne. Et en même temps, il doit garder son glamour en tant qu'acteur.
Marion Rouillet.
Gala, c'est ce que propose Gala avec ses réseaux sociaux. Et
vous êtes d'ailleurs le premier...
Frappe,
vous êtes le premier média européen sur TikTok.
15 millions d'abonnés, 1,2 million sur Instagram. Et c'est ça qu'on offre au final, c'est les coulisses. C'est vraiment être au plus près des stars. Et j'entends aussi avec bienveillance, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, c'est offrir un petit peu cette part de rêve à tous ceux qui nous suivent.
Le regard de Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Non, justement, je m'interroge sur le rapport entre admiration et coulisses permanentes. Parce que justement, les outils qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous venez de citer TikTok, et les réseaux sociaux que les stars, par définition, ont dans leur poche, bah, leur permettent en fait en permanence de nous montrer les coulisses. Donc de nous montrer leur appartement, de nous montrer leur maison, ce qui par ailleurs, parenthèse, a des conséquences avec l'augmentation du nombre de cambriolages et des questions de sécurité qui se posent aujourd'hui pour ce type de star à force de montrer leur domicile sur les réseaux sociaux. Mais passons, mais est-ce que, à force justement de montrer finalement la normalité, de montrer la banalité, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle cette faculté d'admiration baisse un petit peu? Parce que exactement, ce qui faisait l'admiration, c'était justement la capacité des stars à être anormaux, la capacité des stars à être extraordinaires, donc de vivre une vie qui n'est pas la vie banale. Et est-ce que les gens, est-ce que les Français ont envie que les stars leur ressemblent? Est-ce que les Français ont envie que les stars, finalement, mangent la même chose qu'eux, etc., etc.? Je suis pas sûr, parce que je pense qu'à mon avis, ça délite justement le caractère extraordinaire qu'une star, justement, doit avoir besoin. Et si ce terme-là est en train de disparaître, c'est sans doute parce que les stars, à force de vouloir être normales, un ancien président de la République disait président normal, on a vu les conséquences aussi que ça a eu dans sa stature et dans sa capacité à incarner. Je pense que ça doit jouer aussi sur la faculté d'admiration qui se perd un petit peu.
Ilana Rudiakov.
Tout à fait, et c'est justement cette touche de mystère qu'il nous faut, c'est la magie qu'il faut garder. C'est comme dans un couple, il faut rester désirable. Le désir, ça passe par quoi? Par le manque. Donc si on est là tout le temps, dans leur cuisine, dans leur salle de bain, sur le tapis rouge, on perd cette admiration.
Et après, admiration, mais il n'y a pas seulement l'admiration, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est l'inspiration. Mmh. C'est-à-dire que l'étude montre très bien qu'on a besoin d'être inspiré, et quand on a besoin d'être inspiré, on a aussi besoin de voir les célébrités dans des situations qui ne sont pas celles du podium, mais qui sont aussi les coulisses.
Mmh. Ce chiffre important de votre étude, de 86% des Français disent que les célébrités les inspirent. Alors, dans les milieux aisés, les célébrités sont des sources de motivation, et dans les milieux plus modestes, les célébrités sont plutôt des modèles pour rêver.
Oui, exactement. Vous avez résumé les deux fonctions essentielles des célébrités dans la société d'aujourd'hui. D'un côté, le rêve, et ça, c'est vraiment le plus important, parce que quand on demande finalement dans les personnalités, les célèbres que vous aimez, c'est quoi que vous retenez, c'est que ça me divertit, ça me fait rêver, ça me sort de mon quotidien, ça me permet d'oublier. Alors, surtout dans la société très anxiogène d'aujourd'hui, c'est particulièrement une sorte de palliatif. En tout cas, c'est une solution pour sortir de ça. Et puis, la deuxième fonction, c'est la fonction d'inspiration, de motivation. Il y a énormément de jeunes en particulier qui se projettent, qui s'identifient à des célébrités, parce que ça les pousse vers le haut. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle les influenceurs aujourd'hui ont un statut assez spécial auprès de la jeunesse, c'est que finalement les influenceurs montrent qu'il y a des voies parallèles. Il n'y a pas seulement la voie classique du talent ou du conservatoire ou je ne sais quoi, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent à un moment donné, si on a un minimum de persévérance et de talent qu'on va se créer, on devient une célébrité.
Guillemette Audicino.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur les réseaux parallèles, parce que la star qui sort de votre étude, là, c'est Pierre Niney. Et Pierre Niney, ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive d'un système ô combien académique, la Comédie Française, le Conservatoire et tout, mais il a tout de suite montré dans des bulles, des petites vidéos, des choses sur Canal+, sa participation à une émission sur Amazon, etc.
LOL qui ressort.
Voilà, qu'il était également capable, en parallèle de cette formation académique, d'être un type d'une drôlerie absolument hallucinante, comme pourrait être votre meilleur copain et l'homme le plus drôle de la Terre, quoi. Et donc, en fait, lui, il a réuni ces deux choses-là. Il a réuni le classique et, disons, et le réseau parallèle, tout en montrant son âne sur Internet, voilà. Et donc, en fait, je pense que c'est pas étonnant si c'est le plus célèbre d'entre eux en ce moment, parce qu'il a, lui, il a vraiment coché toutes les cases. Il est d'une intelligence, en dehors de son talent, il est d'une intelligence de communication et pour dessiner sa carrière qui, je pense, inspire beaucoup de gens.
Celle qui se démarque aussi, c'est Céline Dion. Nous, ça avait eu un impact très fort. On avait eu Céline Dion au défilé Elisab à Riyad. Ça avait fait un carton énorme parce qu'elle est transgénérationnelle, parce qu'elle parle à tout le monde.
C'est d'ailleurs la star la plus connue de tous les Français, toute génération confondue. Hein, Ilana Rudiakov.
Et celle que les Français souhaitent rencontrer, passer un moment avec Céline Dion.
Christian Delporte, historien.
Oui, je voulais juste dire à propos des jeunes que la recherche de la proximité, c'est pas complètement nouveau. On se rappelle de ce magazine qui s'appelait Salut les copains.
Ah oui.
qui construisait une proximité entre les chanteurs et leur public, entre l'idole et l'admirateur. Et en fait, à travers l'image proche de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila, etc., se construisait une véritable appropriation. Et cette appropriation, par l'admirateur, construisait également sa fidélité. Et ça, c'est extrêmement important.
Rémi Hudguéry.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas nouveau que les jeunes s'identifient aux célébrités. C'est même la particularité de la jeunesse depuis plusieurs générations. La différence, quand même, c'est qu'aujourd'hui, la capacité à être célèbre, rapidement, et n'a jamais été aussi facile. C'est-à-dire qu'on peut devenir du jour au lendemain une célébrité, donc ça change un peu la donne. Donc il y a un effet d'âge qui est, j'ai envie d'être célèbre parce qu'à ce moment de ma vie, je me projette vers un avenir radieux. Mais il y a aussi un effet de génération, et je pense que cette génération, plus que les précédentes, rêve de célébrité, parce que c'est plus facile.
Un chiffre que j'ai retenu dans votre étude, 54% des Françaises et des Français se disent influencés par les célébrités dans leur vie quotidienne, concernant les goûts musicaux, l'état d'esprit, la philosophie de vie, les passions, les loisirs, les centres d'intérêt. C'est énorme, 54%.
Oui, c'est énorme de le reconnaître, parce que je pense qu'il y a même ceux qui ne se prononcent pas alors qu'ils sont influencés également. Oui, je pense que ça montre à quel point la célébrité qu'on appelle plus star reste très présente parce qu'elle propose des modèles, en fait. Les gens. Alors, ce qui était intéressant, c'est que les jeunes, par exemple, nous disent que les échecs comme les succès, sont intéressants. C'est pas seulement la star dans ses beaux habits, mais c'est aussi la star avec ses cicatrices et ses blessures.
C'est pour ça que l'intervention de Pierre Ninet sur sa prof de français, etc., cette petite vidéo qui a étonné tout le monde, où il raconte qu'il était peut-être considéré comme un mauvais élève et tout, ça a énormément plu à ses fans et à la jeunesse, parce qu'il y a un côté, oui, moi aussi je me suis trompé, moi aussi j'ai eu des mauvaises notes, qui a fait plaisir à ses fans, quoi. Donc ce jeu entre je suis talentueux, mais moi aussi je fais des erreurs, moi aussi je dérape, ou moi aussi j'étais mauvais élève, ça c'est très très important pour l'identification.
Et on consomme les stars au quotidien, en fait. Toutes les 10 minutes, on regarde dans son Instagram, dans son flux, ou sur le TikTok, on les voit tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'elles nous influencent sur nos vêtements, sur notre maquillage, sur notre sac, sur notre passion, et même sur nos opinions, parfois.
Et c'est là où Gala se remarque, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on apporte, on essaie de raconter une histoire via des anecdotes. On se contente pas juste d'un simple tapis rouge. On voit l'avant, l'après, les interactions. Et c'est ça qu'on essaye de raconter. Ces petites histoires-là, le behind the scenes.
C'est quoi ça? Le behind...
behind the scene.
Ça veut dire quoi en français? Parce que
des coulisses.
Voilà, parce qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui ne parlent pas anglais. Voilà. Merci pour Jérémy Pelletier. Il est temps de vous retrouver avec vos français mode d'emploi.
Regardez Salomon, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les français.
Alors, Jérémy Pelletier, ce matin, vous vous intéressez au regard que les Français portent sur les États-Unis depuis le retour du riant Donald Trump à la Maison-Blanche.
Oui, une sacrée star, lui. Vous n'êtes pas sans savoir, cher Ali, que le nouveau mandat de Donald Trump a démarré sur les chapeaux de roue, c'est un euphémisme, et que son esprit guerrier est en train de rebattre les cartes dans de nombreux domaines, à commencer par la géopolitique et le commerce mondial. Entre ses revirements sur la guerre en Ukraine et l'annonce, hier soir encore, de nouvelles taxes douanières visant notamment les produits européens, le président américain donne l'image d'un allié de moins en moins fiable et notamment aux yeux de nos chers Français. C'est ce que nous révèle une très belle étude de Paul Gire de l'IFOP publiée ces derniers jours, notamment dans le journal Libération. Premier élément est très intéressant, alors que c'était l'incarnation de l'Eldorado par excellence, les États-Unis ont vu leur image se dégrader de manière spectaculaire pour se situer au niveau le plus bas jamais enregistré par l'IFOP depuis 1988. Seul un Français sur 4, 25%, déclare aujourd'hui avoir de la sympathie pour les États-Unis. C'est une chute de 40 points depuis la dernière mesure faite par l'IFOP en 2010, durant le mandat de Barack Obama. Rendez-vous compte, entre 2010 et aujourd'hui, les États-Unis ont perdu 40 points de cote de sympathie chez les Français, ce qui est énorme. C'est un peu comme si un responsable politique passait de 50% d'opinion positive à 10% en très peu de temps. Donc, étant donné que leur image se dégrade dans ce contexte, les États-Unis ne sont plus perçus comme des alliés protecteurs, mais de plus en plus comme des adversaires. Notez bien le changement en un an seulement.
Seuls 27% des Français considèrent aujourd'hui les États-Unis comme un allié sûr pour la France, contre 68% en juin 2024. On est passé de 68% en juin 2024 à 27% aujourd'hui. Mais au-delà de l'image, c'est le fossé en fait entre deux systèmes de valeurs qui semblent s'être creusés aussi aux yeux des Français. Aujourd'hui, seuls 26% des Français estiment que les États-Unis et la France partage des valeurs communes. C'est un chiffre qui est en chute libre par rapport à ce qu'on mesurait en 2004, où ils étaient encore la moitié à le penser. En clair, les États-Unis ne font plus rêver. Seulement 22% des Français aimeraient vivre aux États-Unis aujourd'hui et 20% y travailler. C'est des baisses de 8 et 17 points en l'espace de 15 ans, ce qui est assez colossal. Les États-Unis sont donc passés en un temps record d'un pays ami à un pays adversaire avec lequel nous ne partageons presque plus rien et qu'il faut désormais combattre.
Alors Jérémy, est-ce que cette dégradation de l'image des États-Unis et ce combat qu'il faut mener se traduit par un boycott des produits américains, sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment ?
Alors en effet, on entend chez beaucoup de commentateurs et de militants politiques l'idée d'un boycott des produits et des services américains. Qu'en est-il justement chez nos Français ? D'abord, on note un assez large consensus quant à l'idée même de boycotter des entreprises et des marques américaine et ça dépasse largement les seules sphères militantes. Près de 2 Français sur 3, 62%, approuvent les appels au boycott et 57% des Français nous disent qu'ils ont l'intention de boycotter des produits ou des services de marque américaine, comme s'ils avaient compris que la consommation était en fait politique et qu'elle pouvait justement avoir un impact sur le cours des choses. Dans le détail, les secteurs les plus exposés par ce boycott aujourd'hui seraient d'abord l'automobile. 61% des Français nous disent qu'ils ont l'intention de boycotter les voitures américaines dans les mois à venir. Ensuite, ça serait les sodas et les boissons. 55% des Français nous disent qu'ils les boycotteraient potentiellement dans les mois à venir. Puis, les chaînes de restauration rapide, dans lesquelles on mange notamment des hamburgers, si vous n'aviez pas compris. 52% des Français nous disent avoir l'intention de boycotter ces endroits dans les prochains mois.
Alors Jérémy, au regard de cette étude, les Français sont donc très engagés via la consommation dans le rapport de force avec les États-Unis.
Alors en effet, allié à la vue des réponses, on pourrait dire que nos Français sont devenus très militants et très patriotes dans leur consommation. En tout cas, ils déclarent l'être. Sauf que dans la vraie vie, eh bien c'est un peu plus compliqué que ça. Un peu comme les comportements individuels qui visent à protéger la planète et à consommer plus sobrement, on constate toujours un petit décalage entre le dire et le faire, entre la volonté et la pratique. Alors oui, Tesla est en chute libre et subit une chute spectaculaire de ses ventes à l'échelle mondiale. Mais qu'en est-il quand on regarde les produits du quotidien des Français normaux ? Parce que tout le monde ne peut pas se prévaloir de dire « je ne vais pas acheter de Tesla dans les mois à venir, je vais changer ma Tesla dans les années à venir ». Donc quand on regarde dans les Français entre guillemets normaux, qu'en est-il ? Eh bien en fait, on mesure très peu de mouvements ces dernières semaines. Le cabinet Circana, qui est spécialisé dans l'analyse des points de vente de la grande distribution, indique que rien n'a bougé s'agissant des produits d'entretien de marque américaine ou s'agissant des soda. Aucune baisse constatée ces dernières semaines. Le Coca coule toujours à flot. Le volume d'achat reste le même dans la grande distribution. Autre exemple intéressant, McDo m'indiquait hier ne pas avoir observé de baisse de fréquentation et que tout correspond à leur prévision de croissance pour le moment. En clair, oui, il y a une volonté de faire et de consommer de façon plus politique, mais tout cela est assez vite mis à mal par l'irruption du réel et des contraintes du quotidien. Il faudra observer cela dans les prochaines semaines pour voir si les Français ont mis en application leur bonne volonté, un peu finalement comme les bonnes résolutions du 1er janvier.
Et puis pour nombre d'entre nous, il va être très difficile de boycotter des plateformes comme Netflix, Disney+, Google, WhatsApp et compagnie. Hein.
Absolument.
On va aller jusqu'au bout de la logique du boycott, ne serait-ce que ces plateformes-là.
Dans l'étude en question, quand on interroge les Français, en effet, les éléments sur lesquels ils boycotteront plus facilement dans les mois et dans les années à venir, en effet, il y a les produits que j'ai cités tout à l'heure, il y a l'automobile, mais ce qui arrive en bas, c'est en effet les plateformes. On se dit beaucoup moins prêt à boycotter en effet ce type de plateforme qu'une voiture Tesla qu'on n'a même pas les moyens de s'acheter.
Merci beaucoup Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site en ce moment de la Fondation ?
Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver justement cette note de Paul Gire. On peut trouver aussi depuis ce matin une belle note de Smaïn Lacher sur immigration et pluralisme politique qui est très, très intéressante. Et puis on peut toujours retrouver et lire le rapport qu'on avait publié sur les PMU en immersion dans les 14 000 points de vente PMU en France. C'est une étude, je crois, sociologique intéressante pour voir ce qui se passe dans des territoires qu'on connaît parfois peu.
FondationJeanJaurès.org et les Français mode d'emploi, c'est une chronique à partager et à podcaster sur l'appli Radio France.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Quelle est la place des célébrités, des stars dans la vie des Françaises et des Français à l'âge des réseaux sociaux? C'est notre thème ce matin à l'occasion de la sortie d'une étude du cabinet Sociovision et de Brand Value pour le compte du groupe Le Figaro. Alors à ce stade de l'émission, quel est le carré magique des célébrités, Ilana Rudiakov? C'est très intéressant ce carré des célébrités, expliquez-nous.
C'est justement savoir jongler avec quatre coins d'un carré magique. On l'a entendu, la définition première d'une célébrité, c'est quand même son talent. Donc,
talent hors norme.
Talent hors norme. Il faut cocher cette case, sinon on ne peut pas du tout jouer dans cette rubrique. Mais après, il y a aussi la personnalité, la partie derrière la caméra, derrière la photo. De voir que cette personne a une personnalité singulière et authentique. Et c'est pour ça que les consommateurs souhaitent aller derrière les coulisses et découvrir cette célébrité chez elle, derrière le défilé, dans les coulisses. Et après, il y a une autre facette qui est très compliquée, c'est de savoir manier son image avec finesse et intelligence. Et justement, on citait Pierre Ninet qui maîtrisait cet art, de maîtriser, de contrôler son image, de ne pas montrer trop, de laisser un peu de mystère. Justement, cet équilibre est compliqué. Et dernière facette, justement, comment je manie le mystère et la proximité, qui va être la dimension la plus compliquée à gérer. Mégala le fait, les accompagne dans cet équilibre savamment.
J'aimerais qu'on accueille Patrick. Bonjour Patrick, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous habitez à Ruelle Malmaison.
Tout à fait.
Alors, vous vouliez témoigner ce matin.
Oui, voilà. Donc, moi, ma star, c'était Belmondo. Et puis, évidemment, puisque je suis né en 56, j'ai été...
On dirait pas, on dirait que vous avez une voix de vingtenaire.
C'est ce que me disent souvent, c'est gentil à vous. Et en fait, j'ai été donc élevé avec Belmondo, Steve McQueen évidemment aussi. Oui. Et puis, voilà, ça c'était sur le plan cinématographique et théâtral. Et puis sur le plan poésie, j'ai été élevé par Brassens et Léo Ferré, voilà, qui m'ont ouvert l'espace éducatif de la poésie à tous les deux. Voilà, et que j'écoute encore Léo Ferré évidemment. Et puis, passionné par les films, j'ai pris des cours de théâtre et ça fait 20 ou 25 ans que je fais du théâtre. Mmh. En retraite aujourd'hui, j'ai donc me suis mis à tourner à m'inscrire dans des sites, dans des castings de cinéma. Et l'année dernière, à ma grande surprise et sans le savoir, j'ai tourné avec Léna Situation.
Oula.
Voilà.
Énorme star aujourd'hui.
Énorme star aujourd'hui, mais complètement, je veux dire, ignorante de ma part.
Ah, mais vous ne la connaissiez pas, en fait, Patrick.
Pas du tout. Donc, je tourne avec elle. On m'appelle, on me dit, Patrick, t'es disponible à tel moment, j'y vais. J'avais un petit speech, je fais le petit speech avec elle, tout ça. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. D'ailleurs, on peut me voir sur Facebook, hein, vous avez une situation, j'y suis. Et c'est que 8 jours après, j'ai des coups de téléphone des amis et de ma famille qui me disent, mais Patrick, on t'a vu avec Léna Situation, en train de tourner un film. Et c'est là que j'ai compris que je devenais en fait la star de ma famille, si vous voulez, la star de mes petits-enfants, star de mes copains. Voilà, et voilà, j'ai vécu un moment, évidemment, sans le savoir, qui était passionnant. Et en plus, on a fait un bon speech, c'était sympa en termes de tournage. Mais voilà, j'ai vécu ça et je le partage parce que, voilà, quand on parle des stars, chacun a ses stars, en fait.
Exactement. Et Patrick, dans l'étude, Léna Situation est présente, hein, Rémi Houdguiri. Elle représente Léna Situation, l'entrepreneuse influenceuse aux multiples talents. Hein.
Oui, tout à fait. Quand on demande aux jeunes quelles sont les célébrités qu'ils aimeraient rencontrer, c'est que parmi les jeunes, les moins de 30 ans, que on cite Léna Situation. Donc ça montre que c'est... Et c'est vrai, je suis sûr que comme moi, vous êtes parfois dans la rue et puis soudainement, il y a un attroupement parce qu'il y a un influenceur que vous ne connaissez pas, qui a été reconnu par ses fans des ados, par exemple.
Patrick l'a dit, hein, il était fan dans sa jeunesse de Belmondo, de Brassens. C'est vrai que les célébrités qu'on admire pendant l'adolescence nous suivent toute la vie, hein, vous le dites dans votre étude. À titre personnel, moi, je ne cesse d'admirer Cary Grant, Robert De Niro ou Sean Connery. Et c'est vrai que ça nous suit toute la vie.
Hein. Totalement, et les gens le reconnaissent. Et deux exemples, par exemple, si vous prenez la génération qui est entre 30 et 45 ans, ils vont citer en premier Zidane. Or, Zidane, pendant l'enfance et l'adolescence, c'était la Coupe du Monde de 98. Et si vous prenez la génération X, qui ont entre 45 et 60, vous allez trouver Sophie Marceau. Et ça nous rappelle La Boum de leur adolescence, ce film qui a marqué toute une génération. Donc, on peut faire l'histoire de France à travers les célébrités admirées par les générations. Par exemple, les boomers sont les seuls à citer des politiques et des religieux.
Quelles sont aujourd'hui, toutes générations confondues, les célébrités qui intéressent le plus les Français?
C'est Céline Dion, là, on l'a dit. Mais après, ce qui est intéressant, quand vous proposez une liste, il y a Thomas Pesquet qui ressort. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le côté explorateur. Et puis, c'est le mélange à la fois de proximité, justement. Et puis, c'est une étoile, puisqu'il côtoie de facto les étoiles bien plus que nous. Donc, voilà, une célébrité qui intéresse. Et puis, on a aussi Philippe Etchebest, qui plus qu'intéresse, il aspire, le chef cuisinier. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'aujourd'hui, la cuisine auprès d'un très grand nombre de Français, ça incarne quelque chose qui est une forme de modèle, parce que la cuisine, ça fait rêver, ça nous sort du quotidien.
Il y a également Pierre Ninet. Dernière question très personnelle, vous me répondez tardivement à l'issue de cette émission. Quelle est, autour de la table, la star qui ne cesse de vous inspirer, de vous impressionner depuis l'adolescence, Rémi Houdguéry?
Moi, je citerai un chanteur, enfin, ou deux chanteurs comme ça. Non, mais j'ai Robert Smith, qui est encore
Des Cure,
et le dernier album est tout à fait magnifique. Et puis, je citerai aussi Sting, donc ça dit ma génération.
Guillemette Odissino.
Du côté des actrices américaines, je crois que Meryl Streep et Jodie Foster restent un petit peu, voyez, comment dire.
Je partage votre goût.
Oui, mais je le pique à beaucoup de monde. Et en France, j'ai une grande admiration pour Isabelle Huppert. Une carrière d'une intelligence et une manière d'être constamment moderne qui me fascine.
Marion Rouillet.
Je dirais Kate Middleton.
Vous êtes la chef de la rubrique Gotha.
Exactement, donc pas très original, mais Kate Middleton, voilà comment elle évolue de roturière à future reine.
Ilana Roudiakov.
J'étais sur Meryl Streep pour une autre raison. Au-delà d'être actrice, aujourd'hui elle est encore actuelle avec ses discours et sa prise de parole.
Et pour terminer, je cite les célébrités que tout le monde... Tiens, je ne vous ai pas demandé Jérémy Pelletier. Je suis sûr que c'est un footballeur.
Je vais pas citer un footballeur. non, moi j'ai bien aimé comment Jean Rochefort a géré sa carrière. C'était une immense star, très élégant effectivement à ses heures de gloire. Il a su s'adapter justement pour que les jeunes générations le connaissent. Donc j'ai dit Jean Rochefort. Voilà.
Vous citez Jean Rochefort, je vais ajouter Philippe Noiret.
Moi j'adore.
Et parmi les célébrités que tout le monde connaît, donc il y a Céline Dion, Tom Cruise à 98%, Lady Gaga à 97%, Kylian Mbappé à 97% et Florence Foresti à 97%. Merci à toutes et à tous. Merci Guillemette Odissino de Télérama, Christian Delporte, merci. On peut lire votre histoire des médias en poche. Merci Marion Rouillet de Gala et merci Rémi Houdguéry et Ilana Roudiakov. On peut retrouver cette étude sur le site...
Sur le site de l'IFOP, du groupe IFOP.
De l'IFOP. Merci beaucoup.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.